Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce rendez-vous des élèves aux ETS de Strasbourg. Je suis Gabriel Melogli, élève conservateur territorial de bibliothèque, et j'anime cette table ronde avec Zoé Morel, élève ingénieur en chef. Bonjour, bonjour Zoé.
Bonjour.
Alors que l'égalité est l'un des grands principes du service public, les collectivités territoriales n'échappent pas aux discriminations. En effet, la lutte contre les discriminations constitue un défi d'ampleur pour les élus et les cadres dirigeants des collectivités territoriales. Pour approfondir le sujet, nous recevons aujourd'hui Émilie Jung, chargée de mission lutte contre les discriminations à la ville et Eurométropole de Strasbourg. Bonjour Madame Jung.
Bonjour.
Et Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris, en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Bonjour Monsieur Romero-Michel.
Bonjour.
Notre table ronde est organisée en trois séquences thématiques. Dans cette première séquence, l'idée serait de comprendre pourquoi la lutte contre les discriminations est un enjeu pour les collectivités aujourd'hui. Monsieur Romero-Michel, quelle est l'ampleur des discriminations en France? Pourriez-vous nous donner des chiffres clés ou tracer rapidement un état des lieux?
Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Je ne suis pas non plus le spécialiste national des chiffres. Mais bon, d'abord, la lutte contre les discriminations, c'est toujours extrêmement compliqué de donner des chiffres, puisqu'on sait qu'énormément de personnes n'osent pas porter plainte, n'osent pas même pas écrire aux défenseurs des droits, et que toutes les institutions, que ce soit le défenseur des droits notamment, nous dit que c'est pas représentatif de l'importance des discriminations qu'on peut connaître. En tout cas, une étude importante nous dit quand même que deux Français sur 10 ont subi des discriminations, et notamment la majorité de ces discriminations sont notamment sur le lieu du travail. Donc, ce qui est évidemment important quand on évoque ici les collectivités locales et les exemplarités qu'elles doivent avoir. En 2024, 16 000 infractions racistes, antisémites en France, c'est-à-dire plus de 11% par rapport à l'année précédente, avec une montée très forte, notamment de l'antisémitisme, comme vous le savez. Ce sont, au niveau des recours devant le défenseur des droits, 6700 recours. Mais comme le dit le défenseur des droits, c'est pas représentatif. Alors, avec surtout des recours qui sont liés à la fois au racisme et à la fois à l'accessibilité, notamment au handicap, sont les deux principales voies d'action. Alors, il y a eu ces derniers mois, je disais tout à l'heure, à la fois une montée de la xénophobie, enfin ces deux dernières années, à la fois une montée de la xénophobie et une montée de l'antisémitisme, et aussi, on en parle moins, mais qui est très important, et nous à Paris, qu'on a beaucoup relevé, parce qu'on a un centre qui est dédié à la fois aux migrants LGBT et aux personnes trans, puisque à la fois le discours international, et qui a été en plus amplifié par Donald Trump ces dernières années, et un discours aussi national contre les personnes trans, fait qu'aujourd'hui, il y a une montée. Et la défenseure des droits avec qui on était, avec la maire de Paris, autour du 1er décembre, nous disait qu'ils avaient en ce moment aussi des retours étonnants qu'ils n'avaient pas eu autant, et que les personnes trans aujourd'hui sont particulièrement discriminées. Voilà ce que je pouvais peut-être vous dire.
Merci pour ce premier état des lieux. Madame Jung, c'est quoi le cadre actuel juridique lié aux discriminations, et qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour les collectivités territoriales?
Donc là encore, je vais faire court puisqu'on n'est pas sur une discussion de spécialistes, et on pourrait passer des heures à définir la notion juridique de discrimination, mais je trouve que c'est déjà intéressant de se dire que quand on parle de discrimination, c'est vrai qu'on a une notion qui peut paraître polysémique, mais où on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un cadre légal, sur une définition juridique. Donc on n'est pas seulement sur un enjeu morale. On va être vraiment sur une dimension légale et comment cela modère nos pratiques. Donc ça, je pense que c'est vraiment un aspect à mettre en avant et qui est intéressant. Et donc, ce qu'on peut se dire déjà, c'est que la discrimination, c'est un délit. Donc, c'est encadré par le droit. On va le retrouver dans différents codes, notamment le code pénal. Et donc, c'est un délit. Et derrière, on a cette question de rupture d'égalité. Donc, derrière, quand on parle de discrimination, on parle d'un délit qui va à l'encontre du principe d'égalité. Pour faire très rapide et sans faire de nous des juristes spécialisés, on peut se dire qu'on peut potentiellement être face à une situation de discrimination quand on a quatre ingrédients qui sont réunis. Le premier ingrédient, c'est de se dire qu'on a un acte, une différence de traitement. Donc une discrimination, ce n'est pas juste une intention, ce n'est pas juste une idée, mais on a quelque chose qui va se rencontrer dans un acte, une différence de traitement, une sélection. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point, c'est sur quels critères va se fonder cette différence de traitement, cette sélection. Et M. Romero a déjà commencé à en citer un certain nombre, puisqu'on a donc le code pénal en définit 26. Là encore, je ne vais pas vous faire la liste des 26, mais en gros, on a plusieurs critères qui se réfèrent à cette question de l'origine, de la nationalité. On a des critères qu'on va dire convictionnels autour de la question de la religion, des activités syndicales ou politiques. On va avoir des critères autour de la question du genre, donc que ce soit le sexe, la grossesse, la situation de famille, mais l'identité de genre, l'orientation sexuelle également. On va avoir également la question de la vulnérabilité économique, l'âge, l'handicap, l'état de santé, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient, c'est de se dire qu'on est dans un domaine qui est prévu par la loi. Et la loi donc, prévoit un certain nombre de domaines, notamment l'emploi, comme vous l'avez dit, également tout ce qui est l'accès aux biens et aux services publics. Donc quand on est une collectivité, on a à la fois l'enjeu en tant qu'employeur, mais aussi l'enjeu dans les services qu'on va pouvoir délivrer. Enfin, le quatrième point qui est aussi important, c'est cette dimension de préjudice pour la personne, et donc de s'interroger sur les conséquences des discriminations sur les personnes. Pour vous donner juste très rapidement des exemples issus de réclamations auprès du défenseur des droits, on va avoir par exemple une agente contractuelle qui ne va pas voir son CDD renouvelé lorsqu'elle a annoncé son état de grossesse. On va avoir un chauffeur de bus qui va refuser de faire monter des passagers parce qu'il ne transporte pas ces gens-là. C'est des personnes qui sont perçues comme d'origine africaine. Et on va avoir aussi, par exemple, des situations ou de mairies qui vont conditionner l'accès à la cantine au fait que les deux parents travaillent, ce qui pose des questions en termes de situation de famille et de précarité. Voilà, donc on voit qu'on est sur des situations qui sont très différentes, et dans leur forme, et dans les raisons pour lesquelles elles existent, et dans leurs conséquences, mais elles ont toutes en commun d'introduire une rupture d'égalité.
Merci. Et du coup, pour au-delà de cet aspect réglementaire, cet aspect moral, pourquoi la prévention et la lutte contre les discriminations doivent être une préoccupation majeure des collectivités territoriales ?
Donc effectivement, on peut voir le côté bâton. Hein. Déjà, la discrimination, c'est interdit, c'est un délit, etc. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. C'est pas assez souligné parce que, comme vous l'avez dit, en fait, les gens ne déposent pas plainte. Les sanctions aujourd'hui ne sont pas assez dissuasives. Donc cet enjeu du droit et de la mobilisation du droit, elle est encore très présente. Mais effectivement, ça serait un peu dommage de se limiter à cette dimension contraignante et quelque part négative, alors qu'on peut se dire que on peut le voir vraiment d'une autre façon. Et la première chose où ça me semble intéressant, c'est vraiment de revenir à cette notion d'égalité, puisqu'on sait que l'égalité, c'est un principe central du service public. Ça fait partie de la devise républicaine. Et donc, quand on travaille sur les discriminations, ben, en fait, on va avoir un objet concret pour se dire eh ben, comment est-ce que je promets l'égalité, comment est-ce que je m'assure que j'ai bien une égalité de traitement dans les services que je propose, dans la manière dont je traite mes agents et mes agentes. Donc ça va vraiment nous donner un outil concret. Et au-delà de la dimension sanction, pour moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on va chausser d'autres lunettes qui vont nous permettre de nous réinterroger sur nos pratiques, sur nos dispositifs, sur nos routines, pour pouvoir intégrer mieux la question de l'égalité et de l'équité. Donc ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, ça serait sur la dimension employeur exemplaire. On sait qu'aujourd'hui, on a un souci d'attractivité de la fonction publique. On sait qu'on a une crise des recrutements. On a un rapport de France Stratégie qui nous dit que ça va durer. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on peut aussi se saisir de cette question de lutte contre les discriminations pour se dire que ça va peut-être être un outil qui va nous permettre de nous ouvrir à d'autres recrutements. À, si on dépasse nos biais en termes de représentation, stéréotypes, etc., on va pouvoir faire rentrer d'autres types de profils, d'autres types de compétences dans les collectivités. Et ça va nous permettre aussi peut-être d'avoir des administrations qui seront plus à l'image de notre population, donc de renforcer la confiance dans les institutions.
Merci Madame Jung. Monsieur Romero Michel, on aimerait bien avoir votre point de vue en tant qu'élu par rapport au portage politique. Est-ce qu'un portage politique au sein des collectivités territoriales est un prérequis pour des politiques de lutte contre les discriminations?
Bah, s'il n'y a pas de volonté politique, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, le rôle des élus est extrêmement important. Par exemple, à Paris, sur ce dernier mandat, quand la maire de Paris a été élue, elle a demandé à deux élus, dont je fais partie, moi et Anne-Claire Boux, de faire un rapport sur ce qu'on a appelé la promesse républicaine, pour à la fois faire un espèce d'état des lieux de la situation dans laquelle nous étions au niveau de la ville, mais aussi... Évidemment, au niveau, et vous le rappeliez tout à l'heure, en tant qu'employeur, Paris, avec plus de 55 000 agents, je parle sous le contrôle de Monsieur De Vetter, puisque j'ai un contrôle là de l'administration parisienne, non, je plaisante, il était important de faire cet état des lieux, et d'ailleurs qui était assez intéressant en interne. Bah, d'abord, de se rendre compte que certaines personnes dans le personnel s'interdisaient de progresser dans l'administration, par exemple. Quand on se rendait compte, par exemple, dans la profession des éboueurs, que les éboueurs qui étaient d'origine étrangère restaient quasiment toute leur carrière derrière la benne. Que ceux qui étaient français d'origine, très rapidement, ils devenaient chauffeurs et puis après ils progressaient. Quand on a autant de salariés, autant de métiers dans une administration, dans une ville, c'est pas le cas évidemment de toutes les collectivités, mais nous c'est le cas. Vous imaginez quand même toutes les possibilités qu'on peut avoir. On sait quand même que c'est un métier extrêmement pénible. C'est la même chose d'ailleurs un peu pour les femmes de ménage dans les écoles. Et donc il fallait à la fois on se rendait compte que les cadres ne leur donnaient pas les clés pour pouvoir avancer, et puis eux s'auto-censurer en se disant « Ah bah c'est juste métier, c'est bien », et ils ne progressaient pas. C'était intéressant à voir. C'est intéressant aussi de voir sur les recrutements. Bon, évidemment, dans l'administration, les recrutements sont surtout sur concours, et on a proposé aussi qu'on essaye de faire, les CV anonymisés, parce que quand on voit sur un CV votre nom, le lieu où vous habitez, ça peut être un problème, comme l'histoire des jurys. Alors, c'est en progression, je pense, mais on se rend quand même compte que la plupart aussi des jurys qu'on avait étaient quand même des jurys de mâles blancs de plus de 50 ans et qu'ils n'étaient pas le reflet d'une ville comme Paris, qui est quand même une ville extrêmement diverse, avec 20% de personnes d'origine étrangère. Donc, il fallait être proactif. Alors, ça s'est concrétisé après par plusieurs plans. Alors, tout ça est transversal. Hein. Alors, j'ai beau être en charge de la lutte contre les discriminations, si chacun des élus ne s'empare pas du sujet, ça ne fonctionne pas. Et nous, c'est transversal. Alors, il y a d'abord le plan parisien pour l'égalité, qui concerne évidemment l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations et bien sûr la question de l'accessibilité et du handicap. Ça, c'était un plan qui était pour nous extrêmement important. Un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on vient d'en voter un nouveau à la dernière session, parce qu'il était important de l'avoir. Un plan contre les LGBT-phobies, avec une quarantaine de préconisations qui ont d'ailleurs toutes été mises en œuvre à ce jour. Et puis, bien sûr, une stratégie handicap et accessibilité avec évidemment des outils pour contrôler tout ça. Un observatoire contre les LGBT-phobies, un observatoire des inégalités, etc. Et puis aussi des rôles modèles. Et je sais qu'à Strasbourg, vous, je crois que vous avez fait ça aussi. On a aussi beaucoup travaillé avec l'association L'Autre Cercle sur les questions des LGBT en ayant des rôles modèles, en les promouvant au sein de l'administration parisienne. Donc oui, il fallait une action qui soit transversale et puis qui soit faite avec l'administration, parce que si vous faisiez ça seul en tant qu'élu, ça ne fonctionnait pas. Et tout ça est quelque chose qui s'est fait, qui s'est travaillé évidemment avec tout le monde, avec tous les services, avec des groupes de travail qui régulièrement évaluent ce qui est fait. Mais la volonté politique, oui, bien sûr qu'elle est déterminante dans ce domaine.
Merci. Nous arrivons à la fin de la première séquence de notre table ronde qui était dédiée au cadre global de la lutte contre la discrimination.